Dans ce journal, nous parlerons de l'organisation des Jeux Olympiques de surf. On scrutera aussi le ciel à la recherche du nouvel avion d'Air France avant d'aller jouer au rugby et de manger une glace. Miam miam. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence par un chiffre, 547 millions de francs.
Oui, 547 millions, c'est le coût estimé de la tour des juges qui a été commandée par le pays à l'occasion de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024. Une tour en aluminium plus solide, plus moderne et plus équipée que la tour en bois qui se dresse en ce moment même et comme tous les ans près du récif de Teahupo'o pour la Tahiti Pro. Alors pour répondre au cahier des charges olympiques, il fallait notamment que la tour puisse héberger des serveurs, des relais et batteries pour pouvoir retransmettre la compétition en direct tout autour de la planète. Un gros projet donc dont le pays et l'IJSPF estimaient le coût à 350 millions de francs l'année dernière. Déjà une grosse somme qui devait être prise en charge pour moitié par l'État, mais l'inflation est passée par là. La difficulté à trouver un prestataire aussi. Plus 50% sur la note qui atteint donc 547 millions. Voilà ce dont hérite le nouveau gouvernement. Et pour Naïma Temari, le dossier aurait pu être mieux géré par l'équipe précédente.
Je ne veux pas remettre la faute sur Paris 2024 parce qu'on leur a dit oui et donc ils ont saisi l'opportunité. C'est de bonne guerre. Mais je vous avoue que là, le pouvoir de négociation, nous l'avions et on aurait pu réfléchir beaucoup mieux et beaucoup plus tôt.
La ministre des Sports, qui malgré la notification des marchés, assure vouloir faire évoluer le projet. Car si la tour des juges en alu qui a été commandée est bien sûr démontable, elle n'est prévue que pour être utilisée à Teahupo'o. L'idée serait donc de pouvoir la monter sur d'autres spots comparables.
Il y a un mois, je suis allée à Veira'o, je suis allée découvrir une compétition de surf sur un reef break, mais beaucoup moins dangereux que Teahupo'o. Et l'objectif là-bas, c'était de voir comment faire en sorte que cette tour des juges taillée pour les Jeux Olympiques puisse venir oxygéner le quotidien du surf polynésien. Donc il est aujourd'hui nécessaire de récupérer ce dont nous héritons, mais surtout de nous projeter et de trouver des bonnes solutions. Il nous reste un an. Potentiellement, est-ce que cette tour des juges peut être modulable ?
Une tour modulable, c'est potentiellement un nouveau surcoût pour le projet et de potentiels retards. Le gouvernement assure que tout sera prêt à temps et compte bien sûr sur les organisateurs de compétition pour réutiliser la très onéreuse tour dans les prochaines années. Or, rien n'est acquis du côté de la WSL, écoutez.
On attend de voir justement qu'elle sorte de l'atelier déjà, qu'on fasse un pré-montage déjà de cette tour pour voir voilà, le temps que ça prend pour la monter, le temps que ça prend pour la démonter et si elle ne va pas engendrer des coûts supplémentaires derrière. Donc il y a encore tous ces questionnements où on attend des réponses encore.
Pascal Luciani, représentant de la World Surfing League, qui en attendant peut compter sur la vieille tour des juges en bois et qui fait toujours le boulot pour la Tahiti Pro. Les surfeurs locaux, eux, se préparent pour les trials. Ce sera les 6 et 7 août. La compétition avec les pros mondiaux, ce sera à partir du 11 à Teahupo'o.
Et on reste sur du surf.
Oui, puisqu'il y a des compétitions en ce moment, notamment en Californie, où nos Polynésiens Vaine Fiero et Kaolivas sont engagés. C'est l'US Open, une épreuve des Challenger Series qui a débuté ce week-end. Et nos deux qualifiés pour les JO étaient exemptés de premier tour. Ils débutent aujourd'hui. Ça s'est plutôt bien passé pour Kaolivas qui a tranquillement franchi son premier tour il y a quelques minutes en dominant largement sa manche. Vaine Fiero, elle, attend son tour. Elle sera opposée à une Portugaise, une Brésilienne et à une Américaine.
Air France met un Airbus A350-900 sur la ligne Paris-Papeete.
Oui, à partir du 30 octobre prochain, la route Papeete-Los Angeles-Paris sera opérée donc par un Airbus A350-900, remplaçant les Boeing 777 plus gourmands en carburant. Le temps de trajet sera réduit de 30 à 45 minutes. Fini le Boeing 777 d'Air France sur la ligne. Dès la fin octobre, toutes les rotations de la compagnie nationale seront effectuées sur ce nouvel Airbus qui consomme 25% de carburant en moins. Le nouvel appareil arrive au Fenoua avec sa configuration à 324 sièges, 34 en business, 24 en premium économie et 266 en économie. On écoute Jean-Luc Mévelec, délégué régional d'Air France en Polynésie.
On a commencé déjà à augmenter nos fréquences à partir de l'été 2022 et puis les résultats sont très positifs et on a choisi donc effectivement de mettre cette configuration au départ de Papeete. La mise en service d'ailleurs de la 350 permet d'augmenter la capacité en business. On va passer de 28 sièges à 34 pour pouvoir servir au mieux nos clients.
Et tous les sièges dans les trois classes sont de conception nouvelle. Les autres aménagements incluent des hublots plus grands de 30%, des écrans individuels tactiles HD et un système de pressurisation plus performant. Mais surtout, cet appareil plus léger et moins gourmand en carburant, moins bruyant et moins polluant, il permettra aussi de gagner quelques minutes sur le temps de vol, explique Jean-Luc Mévelec.
Oui, permet une réduction de 25% des émissions de CO2 par rapport aux avions de la génération précédente. Et puis, autre avantage pour nos clients, à la mise en ligne de ce nouvel appareil, permet de réduire le temps de trajet de 30 à 45 minutes entre Papeete et Los Angeles. On a également une cabine plus spacieuse, des hublots qui sont plus grands de 30%, et puis surtout un système de pressurisation optimisé qui permet une atmosphère de cabine plus confortable.
Voilà, le nouvel A350 d'Air France est donc attendu le 30 octobre au matin.
Le Paul Gauguin se met au service de la santé.
Il est le seul navire de croisière à avoir été créé spécialement pour la Polynésie. Le Paul Gauguin fêtait ses 25 ans samedi, l'occasion de mettre en valeur la collaboration du bateau avec la direction de la santé, puisqu'il va mettre bénévolement à la disposition du pays ses médecins, infirmiers et matériels pour les populations les plus isolées. Le docteur Bruno Sicard, médecin-chef de la compagnie du Ponant, était présent pour l'occasion. Il répondait à Caroline Perdry.
Le projet Tote Gauguin, quand le Gauguin naviguera donc dans les eaux éloignées donc de Tahiti, où l'offre de santé est complexe pour les populations qui sont isolées, eh bien on mettra le service médical du navire à disposition des autorités de santé de Polynésie pour aller au contact des patients qui sont loin d'un médecin pour apporter notre aide technique de soins de traitement, mais aussi de soins de prévention, et aussi notre plateau technique qu'on a à bord. On a un appareil de radiographie, un laboratoire, un échographe.
Voilà, et à noter également que le président de Ponant, Hervé Gatinel, était en Polynésie pour fêter cet anniversaire. Il va ensuite découvrir les marquises à bord du navire et autre annonce, il verrait bien en Polynésie le voilier que la compagnie s'apprête à mettre en chantier, un projet futuriste de bateau zéro émission qui vise la neutralité carbone en navigation, en manœuvre, au port et au mouillage.
La route de ceinture reste condamnée jusqu'à nouvel ordre à Itia.
Oui, le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, s'est rendu hier en fin de matinée au niveau du PK43 sur le site de cet éboulement qui a condamné la route sur 400 mètres dans les deux sens et qui oblige donc les usagers à emprunter la route de la côte ouest pour aller ou venir de la presqu'île. Une quinzaine d'ouvriers s'affairent actuellement pour la déblayer avec de gros engins et selon le gouvernement, le laboratoire des travaux publics procède dès aujourd'hui à des recherches pour examiner la solidité des parois et également les possibilités de rétablissement de la sécurité pour la population. Par précaution, il est donc recommandé de toujours passer par la côte ouest pour rejoindre Papeete. Selon un communiqué du gouvernement, les usagers des communes limitrophes seront informés de l'évolution des travaux et des décisions.
Et puis Eugène Avemaille reste introuvable.
48 heures de recherche intense ont été menées ce week-end pour tenter de retrouver cet homme de 68 ans. Il est disparu depuis déjà une semaine alors qu'il partait cueillir des oranges à Punaruu. Et le dispositif exceptionnel a pris fin hier après-midi, mais les porteurs d'oranges vont continuer de sillonner la vallée. Après cet événement, le bureau de l'association a décidé de décaler d'une semaine l'ouverture de la vallée aux visiteurs. Elle ne sera accessible qu'à partir du vendredi 11 août.
Et on vous parle de ce fait divers à Raiatea.
Oui, selon TNTV, le corps d'un homme a été retrouvé sans vie samedi matin à Uturoa avec des morsures de chien. Selon les gendarmes, la victime a été identifiée comme un SDF de 36 ans, bien connu de la police municipale. Il avait été vu pour la dernière fois à la sortie de la fête foraine dans la nuit de vendredi à samedi. Une enquête est ouverte et une autopsie doit déterminer si les morsures sont intervenues avant ou après le décès.
Deux pointures pour encadrer le rugby local.
Oui, comme l'an passé, le Papeete Rugby Club fait venir deux éducateurs de son partenaire, le Stade Toulousain, club champion de France en titre. Et cette année, il s'agit de Marc Dantin et de Philippe Laurent qui ont entraîné à tous les niveaux du rugby français et qui sont désormais éducateurs chez les jeunes. Alors ils viennent pour deux semaines et vont encadrer des stages pour deux groupes différents. Les U12 et U14 d'un côté, les U16 et U18 de l'autre. Des jeunes qui viennent de différents clubs du territoire qui seront rejoints par deux espoirs des îles Cook la semaine prochaine puisque l'archipel voisin a aussi un partenariat avec le club de Papeete. Les explications de Yannick Gooding, membre fondateur du Papeete Rugby Club.
On sait très bien qu'il y a d'autres jeunes qui sont dans les autres écoles de rugby, d'autres éducateurs qui souhaitent aussi profiter de cette expertise qui vient de Métropole. Donc on a ouvert le stage également aux jeunes U12, U14, U16, U18 et tous les autres clubs. Donc d'ailleurs, on a pas mal d'inscrits. On a des jeunes de différents clubs, de Punavia, de Pirée, de Paia qui viennent. On a des jeunes de Raiatea aussi qui sont inscrits. Et donc ceux de notre partenaire donc des îles Cook. Donc voilà, le but c'est un peu de partager cela.
Voilà, pour les jeunes, le stage débute donc demain. Pour les entraîneurs, ça commence ce soir avec une première formation de management. Ils auront une seconde réunion la semaine prochaine tout en ayant la possibilité d'assister aux séances proposées aux jeunes. Le Papeete Rugby Club, on le rappelle, est partenaire du Stade Toulousain depuis désormais 2 ans. En plus de faire venir des entraîneurs métropolitains ou fénois, le club aimerait à terme pouvoir envoyer ses jeunes à des détections sur place. Une relation importante donc pour Yannick Gooding.
Ça donne un peu du crédit au niveau du club, ça rassure également les parents et ça motive surtout les jeunes. Donc c'est quelque chose qu'il faut alimentés chaque année pour les faire venir et pour les faire progresser surtout. C'est bénéfique pour nous, pour leurs éducateurs, ça leur permet d'avoir un pied aussi dans le Pacifique et de voir aussi des potentiels différents physiquement de ce qu'il peut y avoir en métropole. Donc c'est un peu un échange gagnant-gagnant au final, quoi.
Voilà, le stage c'est donc du 1er au 3 août pour les U12 et U14 et du 8 au 10 août pour les U16 et U18. Il reste d'ailleurs quelques places pour les jeunes qui sont intéressés. Rendez-vous par mail à papetrugby@gmail.com ou sur la page Facebook du club.
Et après le rugby, une pause fraîcheur pendant ces vacances où on vous amène manger des glaces.
Et pour ça, rendez-vous au parc Pao Fei où un nouveau venu a fait son apparition dans le petit monde de la glace artisanale. Il s'agit de Buntiti qui mise sur la glace au lait de coco des Marquises et qui a déjà fait de son triporteur un lieu de rassemblement pour les gourmands au parc. Manon Solignac, 32 ans, a créé Buntiti il y a quelques mois. Elle a un laboratoire à Punaouia et son concept est délicieusement simple.
J'ai créé Buntiti il y a quelques mois. Le concept, c'est de proposer de l'ice cream artisanal au lait de coco. Donc un produit qui est complètement naturel et local. Et tu peux déguster ton ice cream soit nature, tel quel, soit avec des toppings. Il y a du chocolat fondu, un caramel de lait de coco, des toppings croquants et des coulis, des fruits que je travaille locaux et de saison.
Impossible de rater Buntiti au parc Pao Fei où Manon et sa collègue Mado sont présentes tous les jours de midi à 19h, un triporteur Piaggio blanc au look rétro. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le retour de l'actualité locale, ce sera à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup Valdemar, et on va aller manger des glaces.